Vous êtes avec SBS French.
J'ai le plaisir de m'entretenir avec le professeur Corey Bradshaw de l'Université de Flinders à l'occasion de la sortie d'une étude qu'il a dirigée qui retrace les parcours de l'occupation du supercontinent de Saoul par les aborigènes il y a des milliers d'années de cela. Une étude intitulée « Mapping the Superhighways Traveled by the First Australians ». Bienvenue sur les antennes de la radio SBS, professeur Bradshaw.
Ouais, merci.
C'est une étude sur les chemins, les super autoroutes que nos ancêtres aborigènes ont parcourues sur ce continent. Eh bien, parlez-nous de cette étude, parce que les révélations, c'est quand même inédite.
En fait, il y a deux études qui sont, on dirait, des articles sœurs. Le premier, en fait, c'est basé d'un modèle démographique humain. Ça veut dire qu'on a utilisé des données anthropologiques de dispersion ainsi que de fertilité, de survie. Et on a fait ça dans un gris spatial sur tout le continent Saoul, qui était en fait le continent d'aujourd'hui, joint avec la Nouvelle-Guinée. C'était un super continent, disons, qu'on appelle Saoul. Et avec les modèles climatologues qui prévoient le passé de la productivité du terrain, un peu comme on fait pour les projections de climat dans le futur, on fait exactement la même chose, mais dans le passé. Comme ça, on peut bâtir une espèce d'attente de combien de gens peuvent être soutenus par différentes parties du continent.
Sur ce supercontinent, il y avait quand même une population considérable. 6,6 millions de personnes ont navigué ce supercontinent.
Oui, c'est possible. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'était réalisé, mais c'était possible par rapport à la capacité de l'environnement de soutenir ce nombre de gens. Mais il faut s'en rappeler que le continent dont on parle maintenant, c'est 30% plus grand d'aujourd'hui, parce qu'il y avait les niveaux de la mer étaient beaucoup plus bas. Donc, il y avait beaucoup plus d'air sur lequel le peuple pouvait vivre. Ainsi que d'être joint à la Nouvelle-Guinée, ça veut dire ça donnait un plus grand air pour coloniser.
Donc une surface vraiment considérable. Vous parlez même jusqu'à 10 millions de kilomètres carrés de ce super continent. C'est immense, ça.
C'était immense, oui. Beaucoup plus petit, bah encore grand, mais plus petit par rapport à ce qui était pendant la plupart de la préhistoire aborigène en Australie.
Dans vos modélisations, vous avez effectué des possibilités, donc différents scénarios. Quel est le nombre exact des scénarios que vous avez étudiés? Quelles sont ses implications?
Ouais, ben dans le premier article, on a fait à peu près 120 scénarios, oui. Et on a fait chaque scénario plusieurs fois, des milliers de fois, oui. Pour savoir, avec des échantillonnages un peu aléatoires à l'intérieur de chaque paramètre. Ça veut dire, on a échantillonné la survie, on a échantillonné la dispersion, on a échantillonné la direction, on a fait des échantillonnages de probabilité pour avoir une espèce de réponse moyenne du patron de dispersion de l'entrée ainsi jusqu'à remplir tout le continent, quoi. Et ce qui était aussi étonnant là-dedans, c'est que c'était pas juste la taille de la population possible, c'était aussi la vitesse avec laquelle ils ont réussi d'atteindre l'autre côté du continent et effectivement de coloniser tout le continent. C'était à peu près entre 150 et 200 générations humaines, qui veut dire à peu près entre 5 et 7 000 ans, qui est assez rapide pour colonisation complète.
Donc du point de vue historique, c'est rapide, c'est très rapide, mais du point de vue à l'échelle humaine, c'est tout petit.
C'est tout petit, mais en même temps, on parle d'il y a 60 000 ans, ou ouais, peut-être ouais. Plus, ouais. Avec un peuple qui n'avait pas les moyens comme on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas la technologie qu'on a, ils n'avaient pas de roues, ils n'avaient pas de forme d'agriculture comme ouais. telle. Ouais. Donc, c'était hallucinant comment ils ont fait bien réussir pour survivre et même être vigoureux dans ce continent un peu dur.
Et vous avez identifié des superhighways. Parlez-nous de ces superhighways et est-ce qu'il y en a qui existerait encore de nos jours ?
C'est une très bonne question. En fait, ça c'est le deuxième article qui était plutôt conduit par ce qu'on appelle une espèce de, en anglais c'est le viewshed, c'est comment on peut voir des repères dans la distance sur l'horizon pour être capable de s'orienter vers une destination. Donc c'est l'élévation surtout, c'est une, un modèle d'élévation digitale qu'on a fait ainsi pour les terres d'aujourd'hui, mais aussi pour les terres qui sont sous l'eau maintenant. Et avec ça, on a ajouté une couche hydrologique pour savoir s'ils étaient les sentiers étaient proches des sources d'eau. Avec ça, on a ajouté la capacité de se déplacer dans le paysage pour un humain moyen. Oui. Et en tenant compte de combien d'eau il faut porter, combien on peut marcher sur une pente raide et des choses comme ça. Et on a fait une modélisation qui s'appelle de partout jusqu'à partout. From everywhere to everywhere en anglais. Oui. Et on a vraiment fait au-dessus de 150 milliards de sentiers possibles. Et pour une validation, on a regardé comment ces sentiers s'établissaient par rapport aux positions des sites archéologiques les plus anciens dans le continent. Et comme ça, on a trouvé qu'il y avait vraiment ces autoroutes super, comment on les appelle, qui probablement ont duré longtemps. Mais ça, c'est il y a 60 000 ans, plus. Donc, pour vraiment savoir que ça a duré aussi longtemps qu'aujourd'hui, il faudra peut-être refaire cette démarche pour plus tard dans la préhistoire australienne. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on regarde ces super autoroutes, on regarde que ça chevauche pas mal aux routes traditionnelles d'échanges aborigènes, ainsi que les routes d'échanges de bétail quand les Européens sont venus.
Oui. Non, mais on se souvient que, bon, dans l'histoire de la colonisation de l'Australie, les aborigènes connaissaient très bien le terrain. Et on se souvient de l'histoire tragique de Flinders, qui, évidemment, est décédé parce qu'il ne connaissait pas le terrain. Et pourtant, s'il avait été en contact avec les locaux, il aurait pu, son expédition aurait pu survivre à la tragédie qu'ils ont connue, la fin, puisqu'ils ne connaissaient pas le terrain et ils n'avaient pas toutes les données.
Oui, il faut écouter aux experts.
Oui. Et là, vous avez fait une modélisation, justement, qui se base sur des données, des principes et des technologies modernes et tout. Est-ce que vous avez fait une corrélation aussi avec le savoir et la mythologie aborigène qui lie intimement l'occupation du terrain, l'activité humaine et la spiritualité?
Oui, en fait, ça c'est la deuxième étape. Et on est en train de faire un plan, comment on peut faire ça aujourd'hui. Oui. C'est pas fait encore, mais maintenant, on a vraiment cette base pour tester si, pas juste les histoires, en fait, le grand rêve aborigène qu'on appelle, le dreaming, mais on va aussi regarder les patrons linguistiques et les rapport entre langues différentes dans différentes régions de l'Australie. Et aussi, on peut regarder les semblances entre l'art dans des grottes pour savoir s'il y a des connexions, de similitudes. Et avec plusieurs couches comme ça, les histoires ou la culture, la spiritualité, l'art des grottes, ainsi que la linguistique, on pourrait peut-être tester si ces sentiers ont duré aussi longtemps que ça, et ça se chevauche, quoi.
C'est une étude qui ne se limite pas, dont la portée ne se limite pas seulement à l'Australie, étant donné que, donc, déjà, si on considère le continent que vous avez étudié, ce continent qui relie à la Nouvelle-Guinée aussi, mais il y a aussi des conséquences, des projections sur le continent africain qui peuvent être faites à ce sujet-là.
Tout à fait. En fait, j'ai déjà des archéologues qui me contactent avant que les articles sortent pour en fait appliquer cette méthodologie ailleurs dans le monde. Et l'Afrique et la sortie de l'Afrique vers l'Arabie Saoudite, surtout, c'est un grand mystère comment ils ont s'orienter pour sortir et puis quand et où exactement et le climat dans ce temps-là, c'est un peu un grand mystère en ce moment et je pense que ces techniques peuvent s'appliquer un peu partout. Aussi l'entrée de l'humanité en Amérique du Nord par le détroit de Bering et comment ils ont descendu la côte ouest de l'Amérique jusqu'en Amérique du Sud. Donc il y a plusieurs applications qu'on peut faire avec cette méthodologie.
Enfin, je dois rappeler que c'est une étude immense du point de vue scientifique qui regroupe des scientifiques de plusieurs universités du monde entier en fait.
Oui, et c'est vraiment transdisciplinaire. Ça veut dire on avait des anthropologistes, des archéologistes, des généticiens, des climatologues, des géomorphologistes, des hydrologistes, ainsi que les écologistes comme moi, et beaucoup de mathématiques, il faut dire, pour réunir toutes ces données, ainsi que toutes ces expertises ensemble. Et la seule façon de le faire ça, c'était en fait avec la mathématique.
Professeur Bradshaw, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui.
C'était un grand plaisir, merci.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.